Ça fait X temps que je suis dans ce désert terrible et horrible. Jusqu'à quand, Seigneur, me laisseras-tu dans ce désert? Jusqu'à quand serai-je environné par tous ces prédateurs, par tous ces gens qui cherchent à détruire ma vie? Jusqu'à quand attendrai-je ton intervention, ton secours? C'est peut-être ton cas ce matin. Eh bien, sache que le Seigneur est là. Et si tu as envie de crier, fais-le. Fais-le par la foi, car il est là. Il est prêt à écouter ton cri. Tu es, Seigneur, comme nous venons de le chanter, l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et nous bénissons ton nom pour ce privilège, Seigneur, que tu viens de nous accorder, de passer du temps avec toi et en ta présence, de nous approcher du trône sur lequel tu es assis, pour faire monter vers toi, Seigneur, l'expression de nos sentiments, pour faire monter vers toi, Seigneur, des paroles d'exaltation, des paroles de majesté, car tu en es digne. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, d'avoir eu un cœur disposé à accueillir notre louange, notre adoration. Merci, Maître. Quel bonheur pour nous de passer du temps avec toi. Quelle grâce de s'attarder en ta présence. Quelle grâce, ô Dieu, d'avoir un Dieu comme toi qui ne change point, qui reste et demeure le Maître des temps et des circonstances. Quel privilège de te connaître dans la puissance de ton esprit et de s'attendre à toi, quel que soit le besoin dans lequel nous nous trouvons, quel que soit le contexte qui nous environne. Seigneur, merci, merci pour tout. Après ce moment de louange et d'adoration, nous aimerions, Seigneur, nous asseoir très humblement, avec crainte, mais aussi avec assurance, à tes pieds, pour te tendre une oreille plus qu'attentive, afin que tu nous parles. Ce matin, fortifie notre foi par ta parole. Ce matin, donne-nous tous les nutriments indispensables dont notre âme a besoin pour son épanouissement total, intégral, holistique, pour une vie de victoire avec toi. Parle-nous, fais-nous du bien, régénère chacun de nous, transfigure-nous, Seigneur, à ton image. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons l'acclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, c'est donc le deuxième dimanche du mois de novembre. Et je voudrais revenir à un des thèmes que j'ai abordé. C'était le 6 octobre avant notre culte spécial couples et familles, culte au cours duquel nous avons eu à honorer des couples ayant accompli un certain nombre d'années de mariage. J'avais donc parlé de la condition préalable qu'il faut absolument remplir pour pouvoir recevoir enfin la bénédiction de Dieu. En d'autres mots, j'ai attiré notre attention sur comment se préparer en vue d'expérimenter la bénédiction divine. Alléluia. Nous portons tous en nous cette aspiration à une vie plus bénie, à une vie marquée par le succès, par la prospérité, à une vie marquée par la sainteté, par la crainte de Dieu, à une vie, mes amis, qui reflète la gloire du Maître. C'est ça la suprême bénédiction. Mais cette bénédiction-là, comme j'ai eu à le souligner, et comme je vais le faire encore aujourd'hui, cette bénédiction-là ne nous tombe pas, mes amis, sur la tête comme par hasard, comme un fruit tomberait sur nous au cours d'un ouragan ou d'une tempête ou d'une bourrasque. Il y a des conditions, il y a des choses que nous devons faire en amont si nous voulons moissonner toutes sortes de bénédictions en aval. Nous allons relire le passage que nous avions lu, qui nous avait permis donc d'introduire notre thème, à savoir Genèse chapitre 1er, lire le chapitre premier de Genèse, du livre de la Genèse, versets 26 à 28, et puis ensuite, le chapitre 2, nous lirons juste le verset 3. Nous lisons Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Dieu dit, nous sommes au commencement de tout, le péché n'a pas encore vu le jour. L'humanité baigne dans l'innocence. Dieu est en train d'appeler à l'existence de choses qui n'existent pas encore. Et au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Vous voyez cette insistance sur le verbe créer, bara en hébreu, et à chaque fois que ce verbe est utilisé, du moins dans l'Ancien Testament, c'est toujours en rapport avec Dieu. Tout ça pour montrer à l'homme qui n'est pas le fruit d'un quelconque hasard. Tout ça pour montrer à l'homme qui n'est pas le produit d'une évolution arbitraire, aléatoire, pas du tout. Il est le produit d'un acte souverain, créationnel. Gloire à Dieu. Verset 28, Dieu les bénit, c'est-à-dire l'homme et la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et le verset 3 du chapitre 2, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créé. Amen. En introduction à ce thème, j'avais attiré votre attention sur le fait que le Dieu de la Bible, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui se révèle à travers l'histoire comme étant le Rédempteur, comme étant celui qui rachète l'homme de l'esclavage par rapport au monde, par rapport au diable. J'avais essayé d'attirer votre attention sur le fait, sur cette vérité, mes amis, que nous trouvons à travers toute la Bible, que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se manifeste comme étant celui qui éprouve du plaisir à accorder la bénédiction à l'homme. L'homme dans le sens générique du terme, c'est-à-dire à l'être humain. C'est Dieu qui a appelé à l'existence, ce Dieu qui anime tout ce qui est vivant, mes amis. Ces dieux-là a une caractéristique, c'est qu'il est le Dieu de la bénédiction. Non seulement il est celui qui éprouve du plaisir à accorder la bénédiction à l'homme et à la femme qui lui appartient, voyez-vous, mais il se révèle lui-même à travers l'Écriture sainte comme étant le Dieu béni éternellement. Amen. Et gloire au Seigneur. Toute la Bible, mes amis, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, toute la Bible est remplie des témoignages à propos des hommes et des femmes qui ont été au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont reçu la faveur divine, qui ont expérimenté toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Oui, il y a dans chacun de nous, mes amis, dans tout homme, une aspiration, par ailleurs légitime, à être bénis. Nous languissons après une vie marquée par la bénédiction, n'est-ce pas? Nous voulons tous connaître d'une manière ou d'une autre le succès, la réussite. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons que tout ce que nous entreprenons puisse réussir, puisse prospérer. Nous voulons avoir un couple stable, c'est une bénédiction. Avoir l'homme ou la femme qui nous aime. Nous voulons avoir des enfants qui finissent un jour par être casés dans la société. Nous, oui, nous languissons après toutes sortes de bénédictions. Nous voulons être élevés, c'est une aspiration tout à fait légitime. Nous voulons connaître la victoire tout au long de notre parcours ici-bas. Oui, nous voulons expérimenter la bénédiction, quelle que soit sa forme, voyez-vous. Mais comme nous allons le voir, La bénédiction, mes amis, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions glaner comme par hasard, hein, quelque part, ou quelque chose qui pourrait nous arriver comme à l'aventure. La bénédiction, mes amis, est quelque chose que nous récoltons en aval après avoir semé en amont. Alléluia. La bénédiction est un fruit, ou ce sont des fruits que nous récoltons. Et si ce sont des fruits que nous récoltons en aval, cela veut dire alors qu'il y a eu de la semence qui a été jetée en amont, oui ou non? Il ne peut pas y avoir de fruits. On ne peut pas parler de fruits s'il n'y a pas eu semence au départ. Le fruit, l'arbre qui produit le fruit, au départ a commencé comme une simple graine, comme une simple semence qui a été jetée dans la terre. Après avoir préparé la terre, après avoir tout fait, défricher, enlever les cailloux, les pierres, les ronces, les racines destructrices des autres plantes, préparer la terre, la défricher, et seulement après, l'ensemencer. Et puis un jour, de ce travail de semeur, eh bien, la bénédiction ou le fruit arrive. Voyez-vous, Dieu est un Dieu qui bénit. Et j'aimerais vous dire que la bénédiction que Dieu a promise à l'homme n'a pas été une manière pour lui de contrer la malédiction. Quand Dieu se manifeste comme étant le Dieu qui bénit, le péché n'est pas encore là dans le monde. Voyez-vous, le péché est venu plus tard, même avec l'arrivée du péché et de ses conséquences, entre autres la malédiction, cela n'a pas changé la nature de Dieu. C'est dans sa nature de bénir, c'est dans sa nature de vous voir aller de l'avant, c'est dans sa nature, mes amis, de vous voir demeurer sur le chemin de la victoire. C'est dans sa nature de vous accorder toutes sortes de bénédictions. Que ce soit avec Abraham, aussitôt qu'il se révèle au père de tous les croyants, aussitôt qu'il se révèle Abraham, le patriarche, un des grands héros de la foi, Dieu se révèle comme étant celui qui bénit. Il promet à Abraham, je te bénirai. Et en même temps, tu seras une grande source de bénédiction pour les autres. Non seulement il se contente de nous bénir, de nous accorder toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions, mais il veut, par ce geste-là, faire de nous, eh bien, de source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce soit avec Joseph, le fils de Jacob, nous l'avons vu très brièvement. Après moult épreuves, après être passé par des moments difficiles, après avoir connu, mes amis, des temps d'épreuves, des temps d'humiliation, des temps de rejet, des temps de mépris et de moquerie, cet homme, alors qu'il était étranger en Égypte, va faire l'objet d'une visitation particulière de la part de Dieu. Dieu va le bénir en l'élevant et en faisant de lui le premier ministre dans un pays qui n'était pas le sien. Avec Dieu, tout est possible. Ne limitons jamais Dieu. Restons lui fidèles. Continuons à s'aimer la fidélité. Continuons à s'aimer, mes amis, la consécration, l'obéissance. Alors nous récolterons en temps opportun toutes sortes de fruits, toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et gloire à Dieu. Que ce soit Obed-Edom, cet homme qui habitait la ville de Gath, qui était une ville philistine, là dans l'Ancien Testament. Cet homme eut le privilège et la grâce d'accueillir chez lui l'arche de l'Éternel, le symbole de la présence du Dieu d'Israël. Il a accueilli cette arche dans sa maison. Et la Bible nous dit, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 11, « Et Dieu bénit la maison d'Obed-Edom. » Voyez-vous, Dieu l'a béni parce qu'il avait accueilli son arche dans sa maison. Et Paul clôturera cette révélation du Dieu d'Israël comme étant celui qui est béni par cette parole plus que merveilleuse, cette parole extraordinaire que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, où, poussé par le Saint-Esprit dans un cri de foi extraordinaire, cet homme nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Comme pour résumer le tout, le Saint-Esprit nous laisse cette perle de grand prix, nous laisse cette révélation, cette parole de nature à booster, mes amis, à enrichir notre vie. Le Dieu de toute grâce, eh bien, éprouve du plaisir à nous accorder sa grâce, à nous donner la bénédiction. Mais comment? Comment peut-on recevoir cette bénédiction? Puisqu'elle ne nous tombe pas du ciel comme ça, comme par hasard. Il n'y a pas un cocotier céleste qui serait quelque part dans un jardin du Seigneur et qui porterait comme fruit toutes sortes de bénédictions. Cocotier qu'il faudrait ou qu'il faudra secouer avec foi pour que ce fruit tombe et que nous le ramassions. Non. Les bénédictions sont des fruits et par conséquent, il y a donc des choses que nous devons faire. Nous devons semer. Comment alors? Comment faire pour recevoir la bénédiction de Dieu? Comment moissonner et de manière surabondante les différentes bénédictions de Dieu qui nous destinent? Eh bien, à cette question, nous avions répondu. Les bénédictions étant de fruits que nous moissonnons en aval, les bénédictions étant des grâces que nous récoltons en aval, il faut alors faire quelque chose en amont pour pouvoir récolter. Si vous voyez quelqu'un en train de récolter, en train de moissonner du maïs, du riz, ou je ne sais quoi, c'est qu'au départ, cet homme-là a eu à faire un travail, il y a eu un travail préparatoire de la terre. Il a eu à préparer la terre, il a eu à enlever des mauvaises plantes, des mauvaises herbes, il a eu à défricher la terre, à enlever les cailloux, bref, tout ce qui pourrait gêner une semence de pouvoir croître. Et après avoir apprêté la terre, il a eu à semer. Voilà la part que le cultivateur ou l'agriculteur fait. Et quand on a fait ça, c'est alors que le ciel répond. Comment? En envoyant la pluie, en envoyant le soleil. Et la conjugaison de tout cela va permettre, mes amis, à la semence de germer, et puis un jour de sortir comme une plante, et puis enfin de porter du fruit un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela veut dire, mes amis, que si nous voulons avoir une vie qui soit une opportunité pour nous de moissonner abondamment, eh bien, nous devons faire quelque chose en amont, nous devons semer quelque chose en amont. Quoi semer en amont pour pouvoir moissonner en aval? Eh bien, nous l'avons vu. Nous avons vu. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu que nous sémons. Oh, alléluia. L'obéissance aux injonctions, aux directives, aux prescrits de la parole. Voilà ce que nous sémons. Une vie marquée par l'obéissance est aussi une vie qui est appelée à être fructueuse. Une vie dans laquelle on est appelé à récolter abondamment. Alléluia. Il faut donc une préparation en amont qui passe par une vie d'obéissance. Et l'obéissance, frères et sœurs, reste et demeure un des thèmes majeurs de la parole de Dieu. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, alors prenons la résolution d'obéir simplement à sa parole. Et quelquefois, d'obéir à des injonctions qui seraient, mes amis, au-delà, ou qui nous paraîtraient irrationnelles. Des choses que Dieu nous demanderait, mais toujours dans le cadre de sa parole. Attention, hein. Parce que quelquefois, on entend des inepties, des élucubrations théologiques abominables, vous voyez, où les gens font dire à la parole ce qu'elle n'a jamais dit. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont transformés en de véritables manipulateurs. On utilise la parole de Dieu, on la fait sortir du contexte, on dit voilà ce que Dieu a dit. Non, nous devons toujours rester dans le cadre de sa parole. Et même les injonctions que nous recevons devraient toujours, in fine, refléter, mes amis, la véracité de la parole. Alléluia. Être en accord avec l'ensemble de l'enseignement biblique, car s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas vous demander une chose aujourd'hui et demain vous demander le contraire. Non, la loi morale reste transcendantale. La loi morale reste, mes amis, une loi qui transcende l'espace et le temps. Ne pas tuer, eh bien, a été valable à l'époque de Moïse, et même avant Moïse, ne pas tuer est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Mais à côté de la loi morale, il y a d'autres injonctions. Puisque nous marchons par l'Esprit, de par notre présence en Christ, notre position en Christ, nous marchons par l'Esprit. Et l'Esprit peut nous demander une chose, voyez-vous, sans trop savoir pourquoi, et nous allons le voir. Rappelez-vous de Philippe, nous sommes au début de l'Église. Le diacre bien-aimé, homme rempli du Saint-Esprit, à cause de la persécution, se retrouve en Samarie, dans une ville de la Samarie. Et là, il prêche, il proclame la parole de Dieu. Et là, le Seigneur se glorifie puissamment. Voyez-vous, les malades sont guéris, les gens qui étaient démonisés, qui étaient sous l'emprise démoniaque sont libérés, sont délivrés. Le Seigneur accomplit quelque chose d'extraordinaire dans cette ville de la Samarie. Voyez-vous, au point où la nouvelle arrive jusqu'auprès des apôtres qui étaient à Jérusalem. Ils vont se déplacer pour voir ce réveil qui avait été provoqué par un disciple du Christ qui n'était même pas apôtre, mais qui était disposé à faire tout ce que son maître lui demandait. Ils ont vu, et pendant que Dieu accomplissait des choses extraordinaires, pendant que la Samarie vivait le réveil, voilà que le Seigneur parle à Philippe. Il dit, pars sur un chemin désert qui va de Jérusalem à Gaza. En plein réveil, alors que des gens se convertissent de plus en plus, même des gens importants, voilà qu'une parole lui est adressée. Il aurait pu se dire, je ne pense pas. Comment je peux laisser ce travail formidable? Même les apôtres sont venus. Ils se sont rendus compte que le Seigneur est en train de faire quelque chose de formidable. Comment devrais-je arrêter ça pour aller sur un chemin, et la Bible précise, désert, qui descend de Jérusalem à Gaza? Mais cet homme avait le discernement. Il avait un discernement inouï exercé. Il pouvait discerner parmi les mille et une voix qui le sollicitaient, celle qui venait de la part du Seigneur. Il a compris. Il a dit, c'est pourquoi il m'appelle. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Il me dit, c'est un chemin désert, mais j'y vais. Il a obéi. Résultat. Excusez-moi. Quand il est arrivé sur ce chemin-là, il y avait un monsieur important. Un ministre qui revenait de Jérusalem, qui allait vers l'Éthiopie, ministre de la reine de Candace, qui était en train de lire la parole de Dieu, notamment un passage d'Ésaïe. Et c'est là que l'Esprit lui dira, approche-toi de ce char. Quand il s'est approché, il a entendu cet homme. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme va répondre de manière tout à fait sincère. Voyez-vous, il va lui dire, mais comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne qui m'aide à comprendre? C'est là qu'il va lui annoncer l'Évangile. C'est là que cet homme va se convertir et il va être plongé dans les eaux du baptême. Regardez, mes amis, il entend une voix. Le Seigneur lui parle et le Seigneur confirme sa parole. Il n'est pas parti au désert et puis se mettre à errer et dit, mais non, il n'a pas murmuré. Il n'a pas dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment puis-je laisser ce travail formidable? Qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de Philippe? Voyez-vous, oui, quelquefois le Seigneur nous demande des choses qui peuvent nous paraître irrationnelles, des choses compréhensibles, des choses qui, en les mettant sur la balance rationnelle, eh bien, ne donneraient rien. Des choses qui, en les mettant sous forme d'une équation différentielle, nous paraîtraient insolubles. Et on se dirait, mais ce n'est pas possible. Mais lui sait pourquoi il te le demande. Obéis simplement. Car c'est l'obéissance qui va nous conduire, mes amis, à la bénédiction. Tout acte d'obéissance, mes amis, eh bien, est une semence que nous jetons dans la terre de notre cœur. Tôt ou tard, cette semence germera et produira du fruit pour sa gloire. Ne te fatigue pas d'obéir. Ne dis pas, mais oui, mais je donne, je fais ceci, je fais cela, mais je ne vois pas les résultats. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer. Laisse le Seigneur continuer à arroser ce que tu as semé. Et quand son temps viendra, que les hommes le veuillent ou pas, quand son temps viendra, eh bien, les fruits seront là. Et ce qui est formidable, c'est que les gens se rendront compte qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que Dieu veut. Ceux qui t'auront humilié, qui se seront moqués de toi, ceux qui se seront dit, mais il passe son temps pour rien, il n'a qu'à aller chercher à faire autre chose. Ceux-là, en ce jour-là, lorsque ton Rédempteur s'élèvera de son trône et qu'il viendra vers toi, ce jour-là, leurs yeux s'ouvriront. Ce jour-là, ils sauront que le Dieu que tu sers est celui qui tient le monde entier dans sa main. Gloire à Dieu. L'obéissance. Voilà la condition préalable. Prenons la décision de mener une vie d'obéissance. Et l'obéissance nous amène à une vie d'entière soumission, d'entière dépendance du Seigneur. Quand nous obéissons, eh bien nous disons à Dieu, après tout, ma vie n'est plus la mienne, c'est à toi. Je suis ton disciple, c'est toi le Seigneur. Si tu me demandes de tourner à gauche, alors que je sais très bien en tournant à gauche, eh bien je veux me retrouver sur une route avec des nids de poules, avec des ornières, avec des trous comme ça, et ça risquerait d'abîmer la voiture. Mais Seigneur, puisque toi tu l'as dit, je vais le faire. Oh, alléluia. L'obéissance. Et nous avons illustré cette vérité avec la vie de Naaman, ce général syrien, qui était un homme qui jouissait d'une grande considération de la part du roi de Syrie. Cet homme, malgré sa position sociale, malgré tous les honneurs, malgré la position qu'il occupait, cet homme un jour est tombé malade. La lèpre est passée par là, il fut frappé par la lèpre. Oui, ça peut arriver à n'importe qui, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit, mes amis, la condition de notre intelligence, nous restons vulnérables. Et si tout va mieux aujourd'hui, c'est simplement par sa grâce. J'ai suivi les témoignages, notamment je me souviens de cet homme, grand professeur de mathématiques, et qui, un jour, eh bien, développé la maladie d'Alzheimer. Il ne pouvait plus reconnaître sa femme. Un homme très intelligent, un homme très instruit, qui manipulait les mathématiques comme nous cirons nos chaussures. Un jour, il a été frappé par cette maladie. Le général syrien, malgré sa réputation, le généralissime Naaman, a été frappé par la lèpre. Et il a appris qu'il y avait en Israël quelqu'un qui pouvait lui accorder, enfin, prier pour lui et expérimenter la guérison. C'est ainsi qu'il partit. Et vous connaissez l'histoire, il arrive là-bas, il pensait que le prophète Élisée allait l'accueillir comme c'était un grand général avec toute une délégation et qu'il viendrait quasiment presque en s'agenouillant devant lui et en se perdant dans toutes sortes de formules de politesse obséquieuses, tout ce que vous voulez. Non, c'est le contraire. Il n'a même pas vu le prophète. Le prophète reçoit la parole du Seigneur et le prophète dit, voilà, va dire à cet homme-là d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Oh, c'était humiliant. Hein. Vous rendez compte? Humiliant. Lui, le grand général, quand il sortait, c'était avec trois jeeps. Cortège. Quand il arrivait quelque part, on lui ouvrait la portière. Il arrive là-bas, il pensait que tout le monde allait l'acclamer, le recevoir avec pompe, faste et tout ce que vous voulez. Non, c'est le contraire. L'humiliation précède la gloire. Le prophète lui dit, il dit à ses serviteurs, « Allez dire à votre chef d'aller se plonger 7 fois, même pas une fois, hein, 7 fois dans le Jourdain. » Quand l'information arrive, le grand général dit « Quoi ?» Il réagit, hein. « Quoi ?» Il regarde ses galons, il regarde ses serviteurs, il dit « Moi, je dois me déshabiller devant tout le monde, au bord de ce pauvre petit fleuve, dont les eaux sont sales, alors que chez moi en Syrie, y a-t-il pas de fleuve majestueux, plus que ce petit fleuve, le Jourdain, qui commence dans la mer de Génézareth ou le lac de Galilée, et qui se termine son parcours dans la mer Rouge. Évidemment, sa source, c'est un peu plus haut dans les massifs de l'Anti-Liban, mais enfin, et il me demande à moi, eh oui, obéis, pauvre général. Quand on va solliciter une faveur, on ne redit pas le coup, son coup, on ne met pas la main dans la poche, on ne marche pas fièrement, voilà, non, on se fait tout petit. Et c'est ce qu'il va faire. Et à la 7e fois, vous connaissez l'histoire, cet homme est complètement, gloire à Dieu. Mes amis, tant que ce général ne s'est pas plongé 7 fois en obéissance à la parole de l'homme de Dieu, pas de guérison. Cette bénédiction qu'il est allé chercher en Israël était conditionnée. Il fallait qu'il obéisse. Et quelquefois pour obéir, nous devons être prêts de nous revêtir d'humilité. Vous comprenez pourquoi 1 Pierre chapitre 5 nous dit « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce, il donne sa faveur, il donne sa bénédiction, à qui ? Aux humbles. » Voyez-vous, l'obéissance. Obéis, mon frère. Obéis, quelquefois sans trop comprendre. Pourquoi le Jourdain ? Oui, humainement parlant, il avait toutes les raisons de se poser des questions. Il dit, mais enfin, pourquoi le Jourdain? Il aurait pu me demander de retourner chez moi où il y a des fleuves majestueux. Je me serais plongé là-bas. Mais ici, le petit Jourdain, rien du tout. Surtout aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont déjà visité Israël, quand vous regardez le Jourdain, évidemment avec le dérèglement climatique et tout ça, c'est de là jusqu'à là, hein. Par endroit, c'est rien du tout. Vous pouvez traverser même sans pirogue. Voyez-vous? Eh oui. Eh oui. Gloire au Seigneur. Alléluia. 7 fois qu'il a obéi. Et la 7e fois, le miracle. Le miracle est devenu une réalité pour lui. Quand il ressort du Jourdain, après la 7e fois, 7e plongée, eh bien, sa peau était redevenue saine, comme celle d'un jeune homme. Alléluia. Et gloire à Dieu. L'obéissance. Un autre cas, pour aujourd'hui, nous terminerons là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et comme je vous ai dit, toute la Bible a été écrite afin que nous obéissions à cette parole. Ce n'est pas simplement nous donner des informations afin d'enrichir notre cerveau et puis de voir notre cerveau devenir un cerveau à plusieurs étages. Non, c'est d'abord pour obéir. Alléluia. Le deuxième cas, c'est celui d'un aveugle de naissance. Nous sommes dans Jean chapitre 9, vous connaissez cette histoire. Un jour, le Seigneur est avec ses disciples. Et pendant qu'il passait, que voit-il? Il voit un homme qui était aveugle de naissance. C'est-à-dire, il est né aveugle. Il n'avait jamais vu. Il entendait les gens parler des arbres. mais n'avait aucune idée de ce que c'est un arbre. Voyez-vous? Et voilà, au lieu d'avoir compassion, je parle des disciples, compassion de cet homme aveugle, qui dépendait totalement, entièrement des autres. Peut-être qu'il l'avait amené en cet endroit où le Seigneur est passé pour qu'il puisse tendre sa main et recevoir un peu d'argent, un peu d'aumône pour sa survie. Enfin, peu importe. Les disciples, au lieu d'avoir compassion, de se dire, Seigneur, tu peux tout, tu peux faire quelque chose pour cet homme, non? Ils ont cherché à comprendre pourquoi cet homme est né aveugle. Ils disent, Seigneur, mais cet homme est aveugle, il est né aveugle. Certainement que ceux qui étaient avec eux leur avaient dit, voilà, il est comme ça, aidez-le, enfin bref. Il dit, mais cet homme est aveugle. Pourquoi est-il aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui avaient péché? Rabbi, dites-nous. Regardez un peu, mes amis, où le fanatisme, où les mauvais enseignements peuvent obnubiler les gens. Est-ce lui ou ses parents qui aient péché ou qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Mais ça ne pouvait pas être lui parce qu'il est né aveugle. Oui ou non? Comment il pouvait-il pécher dans le sein de sa mère? Non, ce n'est pas leur préoccupation, ils doivent comprendre. Il doit y avoir certainement un péché derrière ce problème. Alors vous qui voyez le mal partout, qui voyez derrière chaque situation difficile un péché quelconque, vous devriez lire, relire, relire encore 10 fois ce passage pour comprendre. Car beaucoup, à chaque fois il y a un problème, nous cherchons toujours à savoir quel péché on a fait. Et c'est ainsi qu'il y a des pasteurs qui culpabilisent les gens. Quelqu'un passe par des moments difficiles, non frère, il faut s'examiner. Ouais. Alors il y en a qui se transforment en psychologues, qui commencent à essayer de comprendre. Ils vous posent des questions, tu dois voir... Là, ils prennent un peu de posture prophétique, hein. C'est incroyable. Non, non, je sens, je sens. Posez-lui la question, comment sent-il ma faim? Est-ce qu'il sent avec le nez que c'est le Saint-Esprit qui veut parler, ou il sent avec le doigt ma faim? Je sens, attends. Je vois comme si tu giflais. Ah oui, je me souviens, oh, c'est fini. C'est à cause de ça. Et pourtant, quand tu t'es repenti, quand tu as rencontré le Seigneur, tu lui avais demandé pardon de tout cela. Et il t'avait pardonné. Alors on commence à te ramener dans le passé. Tu avais été dans un bar, je vois que tu dansais au Congo Bar. Enfin, pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas Congo Bar, mais c'était le bar des évolués à Kassavu. Maintenant, c'est une église, hein. Gloire à Dieu, alléluia. Comme ici, hein, c'était un hôtel bar, hein. Les gens venaient danser, aujourd'hui c'est une église. Je te vois comme dans une buvette. Ah mais oui, mais il était dans le monde. Hein? Comme n'importe qui, il allait prendre sa scole quelque part. Oui, oui, je me souviens. Et puis après, comme tu cherches absolument la réponse, tu commences maintenant à dire, oui, il n'y a pas que là, j'avais été là-bas. Il y a d'ailleurs, je me souviens. Ah ben c'est fini. C'est à cause de ça. Non. Quelle est la réponse du Seigneur? Écoutez bien. Le Seigneur leur dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc il y a des situations qui arrivent, non pas parce que il y a eu à l'origine un péché quel qu'il soit, mais c'est des situations qui arrivent parce que quelque chose de la part de Dieu devrait et doit arriver aussi. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans cet aveugle-là. Et sur ce, le Seigneur crache par terre. Écoutez bien. Il crache par terre, il fait de la boue avec ses mains, il prend cette boue, il l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir au bassin de Siloé. Siloé, qui veut dire envoyer, hein, Siloam, Siloé, va. En fait, c'est un, on l'appelle réservoir au bassin. C'était un bassin qui était donc alimenté par une source au sud de Jérusalem. Et donc, les gens allaient là-bas, puiser de l'eau, etc. Et le Seigneur lui demande, va, après lui avoir appliqué cette boue sur ses yeux, va te laver où? À Siloé. Ben, cet homme va obéir, sans trop se poser de questions. Certainement qu'il avait été au courant du miracle que Naaman avait expérimenté au Jourdain. Et dans le Jourdain, n'est-ce pas? Il se serait dit, mais Seigneur, mais Naaman, c'était au Jourdain. Là, tu m'envoies où? À Siloé? Non. Le Seigneur est un clair. Va te laver où? À Siloé. Non, pas au Jourdain. Voyez-vous? Pars. Cet homme est parti. Il est parti vers Siloé et non pas vers le Jourdain. Car nous avons tendance à reproduire des choses parce qu'on les a vues quelque part. Dieu avait demandé à quelqu'un d'agir d'une certaine manière. Et nous, on en fait toute une doctrine. Voilà. On en fait toute une doctrine. Mais c'était une injonction. C'était une directive. À un moment précis. Dans un contexte bien précis. C'est tout. Mais nous, on en fait une tradition, une règle. Désormais, tu veux être béni? Viens à Malouk. Peut-être que le Seigneur t'avait demandé, il dit, par rapport à cette situation, amène-moi cet homme au bord du fleuve. Et là, prie simplement. C'est tout. Toi, tu obéis, tu arrives là-bas, hop, le Seigneur le touche. Mais si tu n'es pas bien instruit dans la parole de Dieu, tu pourrais tirer la conclusion selon laquelle désormais, quand quelqu'un a un problème, il faut l'amener où? Au bord du fleuve. Et puisqu'il faut amener les gens au bord du fleuve, avec le temps tu te dis, oui, ah ben ici il y a la guérison, je vais tout faire pour construire une église ici. Comme ça tous ceux qui viendraient prier au bord du fleuve, eh bien verraient leurs problèmes, trouver des solutions sans, comme ça. De manière miraculeuse. Non, c'est une injonction, une directive bien particulière, à un moment bien particulier. Il ne faut pas en faire une doctrine. Voyez-vous, puisque l'ombre de l'apôtre, il nous est dit, l'ombre de l'apôtre guérissait, oui ou non? Eh bien, désormais, vous commencez à vouloir créer l'ombre. Le soleil est par, ok, si je mets comme ça l'ombre. Allez, venez, faites le tour. Donc, venez vous coucher ici à mon ombre et vous serez guéri. Non, ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait, mais c'est celui qui était avec Pierre. Il était tellement un avec lui que même l'ombre de Pierre devenait l'ombre du Seigneur. Voyez-vous, sa vie était entièrement soumise. Comme Paul dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Cet homme va aller, son obéissance va le conduire, non pas au Jourdain, comme Naaman, mais à Siloé. Voyez-vous, s'il avait posé la question à ceux qui étaient autour de lui, il lui aurait dit, il a dit Siloé, tu es sûr, tu as bien entendu. Nous, nous savons que c'est au Jourdain. Nous savons, nous avons lu, c'est au Jourdain. Hein? Essaye un peu de réfléchir. Est-ce qu'il a dit Siloé ou Jourdain? Vous voyez, il y a des gens qui ont cette incapacité. C'est comme des funambules. Hein. Ouais. Des équilibristes. Ils sont sur le fil. Ce n'est pas le mensonge, mais ce n'est pas non plus la vérité. C'est une sorte de, comme cet oxymoron, le clair-obscur. Vous connaissez ça, hein? Le clair mais obscur. Il y en a qui jonglent là-dessus. Alors, il sème le doute. Non, c'était clair. Dans son esprit, il a dit quoi? Va à Siloé. Va te laver. Eh bien, cet aveugle est parti. Et son obéissance va payer le prix. Mais non, mes amis, si Naaman avait été guéri, si l'aveugle de Siloé a été guéri, ce n'est pas que l'eau du Jourdain, comme l'eau de Siloé, avait des vertus thérapeutiques, avait la capacité d'accomplir des miracles, pas du tout. Naaman n'a pas été la première personne à plonger dans le Jourdain. L'aveugle n'a pas été le premier à être en contact avec l'eau de Siloé. D'ailleurs, il fut un temps dans l'histoire d'Israël où, à l'époque des rabbins, les gens pensaient que l'eau de Siloé était sacrée. Ils allaient chercher cette eau lors de certaines fêtes, etc. Donc, il n'était pas le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle s'est produit non pas parce que il a été en contact avec l'eau de Siloé ou l'eau du Jourdain, le miracle a été engendré par obéissance à la parole du Seigneur qui a dit « Va à Siloé, va au Jourdain et plonge-toi cette fois. » Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc leur obéissance à la parole de Dieu qui les a préparés et qui les a conduits à la bénédiction, qui les a conduits à la guérison, qui les a conduits, mes amis, au miracle. L'obéissance vaut plus que tout. Obéis. Va, Siloé, ne te pose pas de questions. Ne sais pas te dire, mais enfin, Siloé, moi j'habite à côté, il y a encore un bassin mieux que Siloé. Pourquoi je dois aller là-bas? Après tout, c'est la même eau. Il a dit Siloé, d'accord, mais bon, puisque nous sommes à côté. Non, obéis jusqu'au bout. Et en obéissant, en empruntant le chemin de l'obéissance jusqu'à la destination, eh bien, Naaman et l'aveugle de naissance ont tous expérimenté le miracle. Alléluia. C'est donc l'obéissance qui nous permet de semer. À chaque fois que tu obéis, sache que tu sèmes. Tu obéis, tu sèmes. Voilà. Ne te pose pas de questions. Il a dit, tu obéis. Le seul billet que tu as dans ta poche, il dit, donne-lui. Eh bien, obéis. Ne dis pas, ah, Seigneur, c'est pas possible. J'avais promis d'envoyer ça à mon oncle. Voilà. Maintenant, tu dis, la conviction est telle que faire? Et puis, tu regardes la personne et dis, mais moi, je connais sa tante, elle est conseillère à la primature. Oui, mais tu n'es pas le seul à le savoir, le Seigneur le sait. Oui ou non? Ne cherche pas à fuir, à compliquer les choses. Il t'a dit, donne-lui. De toute façon, tu ne marches pas selon ce que tu as dans la poche. Tu marches par la foi. Même dans un désert, il peut te nourrir. Même s'il faut envoyer des corbeaux pour t'apporter de la viande, il le fera. Obéis simplement. Et en obéissant, le miracle se déclenche. Alléluia. Et je terminerai par cette parole. Je l'avais déjà lue, mais elle est tellement importante dans 1 Samuel 15, verset 22, qui dit ceci. L'Éternel, le Seigneur, trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. N'essaye pas de discuter avec Dieu. J'ai vu des gens, j'en connais encore aujourd'hui, qui le regrettent, alors que la parole de Dieu était claire. Il y a plus de 30 ans, on a parlé avec une personne qui devait faire un choix. Je lui ai dit, ce choix que tu vas faire est contraire à la parole de Dieu. Ce que tu veux prendre comme décision est une décision que Dieu n'approuve pas parce qu'elle va à l'encontre de sa parole. Mais complètement obnubilée, la personne n'a pas entendu. Elle s'est lancée à l'eau. Mais il s'avère que plus tard, cette eau était infestée de crocodiles, de caïmans. Elle a tout perdu. Et encore aujourd'hui, nulle part. Attention. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Car il y en a, au lieu d'obéir, ils pensent qu'ils peuvent racheter Dieu en donnant plus. Tu es dans une relation illégale, irrégulière, immorale. Tu sais très bien que tu ne dois pas continuer à entretenir cette relation. Au lieu de la rompre, tu essayes de faire plus de dons. Tu penses que Dieu a besoin de ton argent? Il a besoin de ton âme. ton âme vaut plus que tout l'or, tout l'argent que tu as. Obéis simplement. Obéis simplement. Il t'a mis à cœur de faire un geste pour l'Église ou je ne sais quoi. Fais-le. Ne dites pas, oui, mais j'ai peu. Voyez-vous? Non. Lui ne regarde pas la quantité. C'est l'acte. C'est l'obéissance qui va déclencher la puissance d'en haut. Et le deux, Énaman et l'aveugle des naissances, eh bien, ont pris le chemin du miracle par leur esprit d'obéissance et résultat, ils l'ont expérimenté. Que Dieu soit béni, acclamons son nom. Nous allons prier. Merci.